Bonjour et bienvenue, ce message vous est présenté par le Centre d'Adoration Vie Abondante, en sigle SAVA. Notre désir est que en l'écoutant vous soyez révolutionnés par une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu et que votre passion pour Dieu s'intensifie. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 1-617-387-1244 ou à l'adresse email suivante info@laviabondante.org. Nous vous souhaitons une bonne écoute et que Dieu vous bénisse.
Nous sommes en train de parler de aimer Dieu par la loi de l'amour depuis 3 semaines. Aujourd'hui, nous allons parler de la repentance comme critère de mettre Dieu à la première place. La repentance, c'est le critère, le prérequis en fait, je voudrais dire, le prérequis pour mettre Dieu à la première place. Avant de continuer, je voudrais, avant qu'on aille dans le vif, je voudrais qu'on fasse de ce verset. En tout cas, je bénis le Seigneur comment il a conduit Dr Christine. Parce que j'avais ce verset, je voulais qu'on prie dessus, mais la prière était déjà faite. On va déclarer le verset dessus. Il est dans le livre de Psaume, chapitre 107, verset 20. Le Psaume 107, verset 20. Si on va là-bas tous, je n'ai pas écrit ça là. Donc on peut trouver ça dans le Bible, Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. On a trouvé le psaume 107, verset 20. Ok. Est-ce qu'on peut lire tous à haute voix? Deux, on y va. Nous voyons sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. On répète. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Est-ce qu'on peut encore déclarer cela? Et les guérit. Et les filles échappées de la fosse. Quand la Bible dit que Dieu nous guérit par la parole, la guérison est à 3 niveaux. C'est la guérison physique, la guérison spirituelle et la guérison de notre âme, de nos émotions. Okay? Dieu appelle tout ça guérison ou restauration, si vous voulez. Et donc, l'intention de Dieu en nous communiquant sa parole, c'est pour nous amener à être guéris et fonctionner comme lui veut qu'on puisse fonctionner. Il veut qu'on puisse. Dieu nous voit d'une certaine manière. Ce n'est pas toujours comment nous-mêmes on se voit, mais lui, Dieu, nous voit d'une certaine manière. Alors, il veut qu'on arrive à matcher, si je peux dire. Il veut qu'on soit élevé à atteindre son degré. Oui, sa perception de qui nous sommes. C'est pour ça que vous voyez, quand il entre en discussion avec quelqu'un, il commence vraiment heureux, et puis il veut te convaincre à accepter cela. Ce n'est pas une nouvelle chose pour Dieu. Pour toi, c'est nouveau. Le conflit est là à cause de ce que tu as en toi. Donc, il donne la parole, et puis il t'amène à devenir, ou accepter, voilà, à accepter. Et vous allez trouver que c'est bizarre. Dieu, n'ajoute rien comme tel à part l'information. N'est-ce pas puissant? Ça veut dire que s'il t'informe et que tu acceptes ce qu'il a dit, dès que tu acceptes, tu es transformé à l'image de ce qu'il voulait de toi. Alors il dit, j'envoie donc ma parole et je vais les guérir. Bien aimé, il n'y a aucun démon qui peut dire non à la parole de Dieu. Dieu se considère comme juge. Un juge, dès qu'il est en exercice, qu'il est sur son trône, quand il parle, tout ce qu'il dit doit s'exécuter. Et si Dieu est notre juge, tout ce qu'il dira dans nos vies doit s'exécuter. Dis un bon amen. Je crois que le grand problème, c'est juste notre rébellion. Mais si nous pouvons vaincre notre rébellion, alors la parole de Dieu, c'est que ça accomplira. Et je répète, Dieu n'ajoute rien à part parler. C'est-à-dire, quand Dieu te parle, est-ce que quand Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros, est-ce qu'il a ajouté les muscles à Gédéon? Autrement dit, tu peux devenir ce que Dieu veut. Si tu acceptes, je crois que c'est tout. Si tu acceptes, voilà. Alors, c'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous avons plusieurs vérités, nous entendons beaucoup de choses. Quelle est la vérité qui est en toi? Il ne faut pas croire que parce que tu es à l'église, il y a vraiment la vérité en toi. Alors, par la grâce de Dieu, est-ce qu'on peut faire cette parole ici, notre confession? Tu dis simplement, tu vas seulement parler, tu dis, Seigneur Jésus, je veux que cette parole me guérisse aujourd'hui. qu'elle enlève le mensonge et qu'elle place la vérité, qu'elle enlève la confusion, qu'elle donne la direction. Et fais-moi échapper de la fosse. C'est ce qu'il dit, hein. Fais-moi échapper de la fosse. L'ignorance t'amène dans la fosse. Tu ne connais pas, tu entres dans la fosse. Il dit, fais-moi échapper de la fosse. Est-ce qu'on sent, on peut dire, Seigneur Jésus, que cette parole trouve sa place en moi. Je ne veux pas la confronter. Je ne veux pas la résister. Je veux te laisser établir la vérité dans mon esprit, afin que je sois affranchi des confusions, des mensonges de l'ennemi. Fais-moi échapper de la fosse au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Je reçois. Amen. Ok, donc nous sommes en train de parler de aimer Dieu par la loi de l'honneur, donner, c'est quoi le titre? La force de la repentance. Ok, nous avons commencé depuis 3 semaines à parler de justement la loi de l'honneur, mettre Dieu à sa première place, le prouver en aimant. L'amour s'exprime par les actions, comme nous le savons. Et dans cet enseignement, je veux que nous puissions comprendre comment utiliser la loi de l'honneur pour prouver notre amour, parce que l'amour doit se prouver. Pour prouver notre amour à Dieu, tu utilises la loi de l'honneur. Au-delà de déclarer une déclaration d'amour, il faut accompagner ces déclarations par les actions. Ces actions-là authentifient ton amour. Les actions que tu mènes certifient, vérifient que non, cette personne aime ou bien prouve que tu aimes. Ce qui fait que tu ne peux pas simplement dire que j'aime Dieu, tu dois accompagner par les actions. Qu'est-ce qu'on peut dire action? Ce que ces actions-là font, ces actions authentifient ce que tu as dit. J'ai parlé et mes actions authentifient cela. L'authenticité, c'est un peu comme avoir un visa. Pas un visa. L'authenticité, c'est un peu ce qui c'est la signature au bas de ce que tu as du contrat. Oui, voilà ça scelle. Ça dit voilà. J'ai dit que j'aime Dieu et mes actions le prouvent. Je le démontre par mes actions. Est-ce que nous sommes ensemble jusque là? Alors, les actions vérifient non simplement l'authenticité de ton amour pour Dieu, mais les actions vérifient aussi le volume ou la quantité de ton amour. Volume ou quantité. L'amour, donc, peut être mesuré. Tes actions montrent combien tu aimes, en fait. OK? Les actions montrent le volume de ton amour. Tu peux beaucoup aimer et peu aimer. Il y a un verset dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 47. Il dit ceci. Je voudrais seulement donner ce verset pour que nous lisions simplement la seule phrase que j'ai sortie de ce verset-là. Et ça dit... Est-ce qu'on peut la lire ensemble? Ça dit quoi? Car, elle dit quoi? Elle a beaucoup aimé. Est-ce qu'on peut dire beaucoup aimé? Beaucoup, comme vous le savez, tous les francophones ici savent que beaucoup, c'est un adverbe de quantité. Quand on dit qu'elle a beaucoup aimé, on essaie de dire que le volume de son amour était grand. Elle avait beaucoup aimé. Mais remarquez, c'est Jésus-Christ qui parlait. Il dit que cette femme ici a beaucoup aimé. En fait, il essaie de dire simplement qu'il y a l'amour, il y en a qui aiment peu, il y en a qui aiment beaucoup. Ton amour pour Dieu, donc, est mesurable. On peut mesurer si tu aimes beaucoup ou si tu aimes peu. On peut mesurer. C'est pour ça que vraiment je bénis Dieu. Pour le message de la rade est important parce que, ou puissant parce qu'il nous enseigne à comment avoir un impact sur le cœur de Dieu en l'aimant beaucoup. Regardez, la femme a eu un impact sur le cœur de Dieu plus que les autres disciples qui étaient là. Vous savez que aimer Dieu a un très grand impact sur le cœur de Dieu parce que Dieu dit que c'est le... Non seulement c'est le premier, il dit que c'est le plus grand. Si tu veux avoir un grand impact sur mon cœur, tu m'aimes. Quand tu m'aimes beaucoup, tu as un grand impact. Vous savez que je suis allé lire un verset qui, en fait, m'a attiré mon attention. Le verset dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8. Le verset dit que quand tu aimes Dieu, il te remarque. Tu es remarqué quand tu aimes Dieu. Est-ce qu'on peut dire remarqué? Vous savez, je ne sais pas pour les autres qui viennent d'autres pays, mais dans du pays duquel moi je viens. Oh, comme vous voulez. D'où moi je viens, on voyait des gens qui, pour se faire remarquer devant monsieur le président, vous voyez un grand monsieur respectable, diplômé, comme vous voulez, mais il va te faire... il va danser, célébrer le président pour être remarqué, pour être remarqué. Et ça marchait. Parce que je me rappelle, il y a un monsieur qui, il a tellement été remarqué que on a créé un poste pour lui. Bon, on a cherché, il dit, bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait? Mon pape, voilà, te donne... on te crée quelque chose. En tout cas, écoutez, je crois vraiment que si tu veux que Dieu crée quelque chose pour toi, commence vraiment à le célébrer. Monte ton amour, lève ta main droite, tu dis, Seigneur, aide-moi à me faire remarquer, que tu remarques ma présence au nom de Jésus. Ton amour peut avoir l'impact sur le cœur de Dieu. Il peut te remarquer. Combien tu aimes Dieu, fais remarquer. Écoutez, la femme de David qui s'appelait Milka, bien-aimée, en tout cas, je suis convaincu que Dieu écoute les prières, hein? Mais je suis convaincu qu'au-delà des prières, Dieu remarque les gens qui ont un cœur pour lui. Ce qui fait que tu ne fais pas le même exercice que l'autre pour que Dieu visite. Je ne sais pas si vous me suivez. Et David vient. Je ne sais pas comment le gars a dansé. Mais vraiment pour sa femme, c'était un scandale. C'était un scandale. Oui. En tout cas, la Bible dit qu'il a dansé comme un homme de rien. Donc, un homme de rien. J'essaie un peu de réfléchir. Et puis, il s'est débarrassé de sa robe pour être à l'aise dans les mouvements. Vous voyez de quoi je parle, hein? Pas les danses de tu danses. Non, là, vous ne dansez pas. Tu viens devant Dieu. Écoutez, bien-aimé, tout le monde sait que tu as des problèmes. Des fois, je me dis, mais tu es en train de vraiment essayer de garder. Tu gardes quoi? Dis, célèbre l'Éternel. J'ai fait quand tu dis, célèbre l'Éternel. Oh! Ou bien dis-lui, fais-toi remarquer. Non, fais-toi remarquer. Fais-toi remarquer. Fais que quand Dieu cherche à où aller, il se dit, non, pas lui, lui il est trop plein de lui-même, allez. Ah voilà, vous savez que la danse, hein, en fait, danser c'est un signe d'humilité, c'est s'humilier, s'abaisser devant Dieu. Parce que danser en fait ridiculise. Non, vous voyez un grand monsieur en train de faire les pas. Ça pour nous, les hommes, tu veux que ta place, tu veux qu'elle soit maintenue, tu vas faire les danses de... Mais, ceux-là qui savent qu'ils ne sont rien devant Dieu, ça ne leur dit rien. Si c'est s'abaisser, si c'est rouler par terre. Et vous remarquez que Dieu, écoutez ce que David dit, vous avez compris le secret. Il dit, quand sa femme dit, tu danses comme un homme de rien, lui David répond. Il dit, non, il dit devant le peuple. David dit, non. Ce n'est pas devant le peuple. Qu'est-ce que le peuple va faire pour moi? Le peuple s'est allé me prendre quand j'étais derrière les brebis? Non. Est-ce que c'est le peuple qui m'a fait entrer chez le roi? Non. Est-ce que le peuple m'a délivré de l'ours et du lion? Non. Est-ce que ce peuple ici m'a oué un roi? Non. D'ailleurs, si je compte sur le peuple, j'étais d'office disqualifié. Donc, quand vous me voyez faire les pas, je les fais pour l'Éternel qui m'a pris et m'a préféré à la place de ton père. Je vais encore danser comme un fou. Il va encore me remarquer. Oui, je danserai comme un fou. Il va me remarquer. Bien-aimé, que vraiment je prie que par Dieu, par sa grâce, qu'il arrive à nous dégonfler. Qu'il enlève cette... Mais non! Donne-toi à Dieu. Exprime-toi. Dis à Dieu, non, je ne suis rien. Que Dieu remarque que tu as beaucoup aimé. Bien-aimé, beaucoup aimé, ce n'est pas ce que tu as dit. Nous, ici, on a des Français un peu limités et un peu, il faut les monter. Il faut les monter sur les clics. Il y a des gens qui ont des bons Français, tu risques de penser que parce qu'il a beaucoup parlé, il aime beaucoup. Non, c'est seulement il a facilité de parler. Il connaît beaucoup de versets. Hein, il sait les conjuguer et les connecter ensemble. Nous, on ne sait pas trop. C'est comme j'entendais la prière d'un monsieur qui dit « Ah, Seigneur, tu es Dieu. Tu as créé les poussins. Ils peuvent fonctionner sans pile. Il a cherché quoi dire. Il trouve que Dieu est trop. Non, bien aimé, il regarde les poussins. Il dit « Oui, oui, oui. » Il prend le coussin, il regarde, il dit « Il est Dieu, vraiment. Sans pile. » Non, mais c'est quoi mon point? Bien aimé, mon point, c'est celui-ci. Ce n'est pas seulement pardon, ce que j'ai dit, que je me fais remarquer, c'est par comment je m'exprime. C'est qu'est-ce que je donne à Dieu? Comment est-ce que... Bien aimé, et je répète, prouver à Dieu que tu l'aimes est à ton avantage. Vraiment. Trouver... Et David dit, comme j'ai remarqué que danser ici lui est agréable, je me donne à lui comme ça, et ça lui est agréable, oublions les gens. Je veux encore me donner à Dieu, et je remarque quand je me donne... Lui, David a dit, quand je me donne à Dieu, il m'augmente, je veux encore me donner à Dieu. Il va encore m'augmenter, je donnerai à Dieu, il va encore m'augmenter. Alors, aimer Dieu, éprouver ou authentifier. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Si quelqu'un, qui est connu de Dieu? Ok, toi tu connais Dieu, amen. Mais est-ce que tu es connu de Dieu? Connu ici, ce n'est pas juste connaître le nom et tout ça. Connu, c'est être remarqué. C'est vrai que nous sommes nombreux, mais est-ce que tu es remarqué? La Bible dit ceci. En fait, ce que je dis, c'est ceci. Que dans l'histoire de la femme, Luc 7, dans l'histoire de la femme, elle a appliqué la loi de l'honneur, c'est comme ça que Dieu l'a remarqué. Quand Jésus est entré dans la maison de Simon, vous connaissez l'histoire, Simon écrit une invitation, il envoie à Jésus, comme beaucoup d'entre nous le faisons, nous disons Jésus vient. Jésus vient maintenant chez Simon, il y a plusieurs hommes dans la salle. Quand ils sont entrés dans la maison, tout le monde est allé chercher une place pour lui-même et s'est assis. Chacun sur sa chaise, chacun le bras croisé. Peut-être que dans la tête, il se disait que Jésus, lui, nous serve avec quelques miracles, parce qu'on a appris qu'il fait des miracles. Comme on l'a invité, asseyons-nous vite, que lui commence à nous servir. Comment je le sais? Je le sais parce que Simon a dit, s'il est prophète, ça veut dire qu'il commence déjà à faire les démonstrations ici, qu'on voit, qu'il nous serve, qu'il fasse des démonstrations. Ou peut-être les autres se disaient, nous sommes nombreux, que Jésus se trouve quelqu'un d'autre pour le servir. Parce que les Juifs savent, les Juifs savaient que quand tu accueilles quelqu'un chez toi à la maison, tu le sers en lavant ses pieds. Donc ils savaient que c'est quelque chose qui devait être fait. Ils n'étaient pas ignorants. Tu sais qu'il y a un besoin, il y a un travail à faire, tu sais. Mais sûrement que les autres se disaient, comme moi je suis un peu occupé, que Jésus se trouve quelqu'un d'autre dans la salle qui va lui laver les pieds. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Ou ils attendaient que Jésus le serve, fait les miracles, ou ils se disaient, trouve-toi quelqu'un d'autre. Nous sommes nombreux ici, prends-le, prends-t-elle. Un peu comme Moïse a dit, pourquoi tu n'envoies pas quelqu'un d'autre? La femme, elle applique la loi de l'honneur, c'est-à-dire avant de m'asseoir, je le sers d'abord. Elle est entrée, elle n'a pas cherché une place pour elle-même d'abord. Non, elle n'a pas dit, je vais m'asseoir moi aussi, comme tu es prophète, commence à faire des choses. Elle est venue, là, elle me dit, elle passe d'abord les hommes qui étaient assis. Elle ne cherche pas sa place pour s'asseoir, elle n'attend pas une bénédiction, elle s'oublie elle-même, elle donne tout de suite la priorité à Jésus dès qu'elle entre. Elle prouve par son amour en donnant à Jésus, elle prouve son amour en donnant à Jésus la première place. Écoutez, je vais lire ce qui s'est passé. La Bible décrit cela. Puis, se tournant vers la femme, écoutez ce que Jésus-Christ dit. Bien aimé, retenons. Il dit, Se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver les pieds. » L'eau ici représente les ressources que tu as reçues. Et puis il dit, « Tu n'as point donné d'eau, mais elle les a mouillées avec ses larmes. » Ça devait être beaucoup de larmes, j'imagine un peu. Ça dit ceci, voilà, je veux que vous compreniez le discours de Jésus. Il dit, « Depuis que je suis ici, toi tu ne fous rien. » Écoutez, il dit, « Tu ne m'as point donné d'eau pour laver les pieds. » Mais elle, il compare, elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Vous savez, je peux penser qu'il y a une raison pour laquelle je ne sers pas Dieu. Hein? Mais Jésus, elle va explique, il dit, elle n'avait peut-être pas des sueurs, un seau d'eau, mais elle a été créative pour trouver quelque chose à faire. Qu'est-ce que Dieu essaie de dire? Que tu as certainement quelque chose que tu peux faire. Autrement dire que je n'ai pas d'eau et que je n'ai pas d'essuie-main, comment on appelle ça? Serviette, voilà, excusez-moi. Que je n'ai pas de serviette, ça ne sera pas une bonne raison. Comme si, comme pour dire, je t'ai donné tellement de choses, utilise une chose que tu as là. Si c'est les cheveux, utilise les cheveux. Utilise tes larmes. Donne-moi, je t'ai donné des choses, donne-moi ce que tu as. Et puis il dit, tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Depuis que je suis entré. Ici, à part les ressources que tu reçois, il parle du corps. Elle a utilisé son corps pour servir l'Éternel. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête. Ici, c'est ton expertise. C'est ce que tu sais faire. Tu n'as pas versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Quand tu lis ça, vous rendez compte que Jésus remarque les choses qu'on fait pour lui. Et puis il remarque à quelle heure. C'est-à-dire que vous êtes entré, vous êtes assis. Mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'est même pas encore assise. Elle a aimé Dieu en lui donnant la première place avec tout ce qu'elle avait. Elle servit les besoins de Dieu d'abord. Ce sont ces actions-là qui ont prouvé justement qu'elle aimait. Mais je crois que les mamans seront d'accord avec moi. Que s'il sort, il revient avec un morceau de steak. Il t'amène à la maison, tu peux apprécier cela. Bon, vous n'aimez pas les steaks. OK, il amène un parfum. C'est-à-dire que le geste, l'action, additionné à ce que tu dis, donne le poids. Vous comprenez un peu? Et pendant que je parle, en fait, la question que tu dois te poser, qu'est-ce que je peux vraiment faire pour Dieu? C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai des cheveux? Est-ce que j'ai des larmes? Est-ce que je peux faire des bisous? Est-ce qu'en fait, j'utilise ce qu'elle a dit? Parce qu'écoute, il se plaint. Il se plaint. Il dit, depuis que je suis ici, elle fait ceci, mais toi, tu ne fais rien. Dans ce qu'elle a fait donc, il y a une chose qui montre, moi à mon avis, dans ce qu'elle a fait, il y a une chose qui montre particulièrement combien elle a beaucoup aimé. C'était mesurable comment? Par les choses qu'elle donnait. Comment on peut mesurer? C'est par les choses que tu donnes. Ah, comment je peux expliquer ça? La valeur de ce que tu donnes détermine aussi la quantité de ton amour. C'est ça, non? Oui. Le prix que tu payes pour donner détermine la quantité de ton amour. Donc ton amour, bien-aimé, est quantifiable. Et comment on mesure? On ne veut même pas te regarder les mots. On va regarder ce que tu as fait. Parce que Christ dit, voilà ce qu'elle a fait. Elle a beaucoup aimé. Nous sommes ensemble jusque-là. OK. Ce qu'elle a servi à Dieu, c'est quoi? Elle a donné à Dieu son trésor qui était le vase d'albâtre. Le vase d'albâtre. Vous connaissez le vase? Vous savez c'est quoi le vase? Vous savez le parfum? Elle a brisé. C'est quoi le vase de la batte? Peut-être que vous n'allez pas comprendre c'est quoi le parfum là, si vous ne savez pas c'est quoi. Si vous n'allez pas voir la valeur. La batte là était était un parfum précieux qu'on mettait dans ce vase-là et le fermait hermétiquement pour qu'il ne s'évapore pas. Et donc, le parfum était tellement précieux, comment on arrivait à l'acheter? Les parents investissaient l'argent. Les parents faisaient des économies de longue durée et investissaient leur argent pour acheter ce vase-là et le garder pour leurs filles. Et les filles gardaient ce vase-là comme dot. Et comment amener ce vase-là le jour du mariage? Si un homme se présente et l'homme est resté chez les parents, la fille devait amener le vase, le briser au pied de l'homme pour dire, voilà, j'accepte d'aller chez cet homme ici. Mais quand tu fais ça, tout ton investissement part et tu dis maintenant que cet homme est celui qui prendra soin de moi. Vous me suivez? Alors, cette femme-là amène tout ce qu'elle avait. Si ses parents étaient là, elle dit, mais qu'est-ce qui te prend? C'est quoi mon point? Elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est comme si elle vendait même son mariage. Parce que ce vase-là représentait le signe que voilà l'homme que je veux, voilà l'homme qui va m'épouser. Mais elle le brise là. Ça veut dire qu'il ne lui restait plus rien pour son propre mariage. Jésus regarde et dit, elle a beaucoup aimé. Il n'y a personne qui, dans ce siècle, sert Dieu avec ses biens. Non. Elle peut dire, il n'y a personne dans ce siècle qui abandonne père, mère, ses biens, ses terres, et ne recevra dans le même siècle. Autrement dit, quand tu crées ce vide pour Dieu, ça devient une piste d'atterrissage pour lui. Ma question c'est celle-ci, est-ce que tu as déjà créé un piste d'atterrissage pour Dieu dans ta vie? Le plus intéressant, bien aimé, ce n'est pas seulement les prières. Vous savez que les paroles sans action, elles sont vides. Ce qui fait que les prières diminuent de poids quand tu parles seulement. Mais quand tu accompagnes l'action, la prière devient forte. Elle brisa le vase de grand prix. Je veux qu'on puisse voir maintenant la réaction des disciples. Qu'est-ce que les disciples, comment est-ce qu'ils ont réagi? C'est sûr que si vous posez la question à la femme, comment tu peux offrir tout ce que tu as comme ça à Dieu? On peut la critiquer, on peut se moquer d'elle, on peut dire que tu exagères. Si tu lui poses la question, sûrement elle te dira, je ne suis pas amnésique, je sais ce qu'il a fait. Je sais d'où je viens, où il m'a ramassé. Je n'oublierai jamais par où je suis passé et je n'oublierai pas ce qu'il a fait pour moi. Il vaut la peine d'être adoré comme ça, je lui donne tout. Mon histoire a été changée par cet homme. Les gens, en fait, me pointaient de doigt, mais il ne m'a pas pointé de doigt. Quand les gens m'ont disqualifié, lui, il a pensé que je valais la peine. Ah, je t'ai rejeté. Vous m'appelez pécheresse, mais lui voit un autre nom en moi. Vous m'avez donné l'étiquette comme pour me condamner. Lui, il enlève l'étiquette. Il a retapé les choses que vous avez détruites. Comment je ne peux pas tout lui offrir? En fait, je lui offre tout parce que je n'étais rien. Donc, tout ce que je suis maintenant, c'est lui. Il vaut la peine que je lui donne tout. Il m'a acheté par son sang. Je ne m'appartiens plus. Il m'a rendu belle. Je lui offre tout. Je ne peux plus réclamer mes droits. Il a le droit de recevoir tout ce que je suis. Elle n'était pas amnésique. Voyons la réflexion de ses disciples. Des disciples de Jésus. Matthieu chapitre 26, verset 8. Quelle est la réaction des disciples? Il me semble qu'eux réfléchissent différemment. Ils vont dans une autre direction. Qu'est-ce qu'eux ils disent? Les disciples, voyant cela, est-ce qu'on peut dire voyant cela? Donc, ils regardent la femme qui vient, qui. Oh, et puis, ils connaissent un peu l'histoire de vase de la batte. Ils voient comment la femme vient, elle brise. Bon, je ne pense pas que... Je crois qu'elle était jolie. Elle vient, elle brise. Et puis, elle enlève les cheveux. Elle lâche les cheveux. Elle commence à laver. En fait, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Elle est créative dans le service de Dieu. Elle est créative. En fait, elle se dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle réfléchit, ah, j'ai les cheveux. Tout ce qu'elle faisait, Simon regarde. Les deux Simon, Pierre et le lépreux. Tous les gars regardent. dans la tête, ils s'indignèrent. C'est-à-dire que c'est sale, ça. C'est vilain, ça. Eux, ils s'indignent. Écoutez, hein, voyons cela. Ils s'indignèrent et dirent. Qu'est-ce qu'ils disent? À quoi bon quoi? Bien-aimés, c'était des disciples. C'est des gens, suivez-moi, qui étaient convaincus que ça doit être le Fils de Dieu. Mais il ne vaut pas la peine que je lui donne tout comme ça. Et puis, ils encouragent les autres à ne pas faire la même chose. Ils disent, tu es folle. Quelle perte! Est-ce que tu sais comment je traite Dieu? Est-ce que tu sais comment toi tu traites Dieu? Il ne faut pas vite rire. Ces disciples-là ne sont pas différents de beaucoup d'entre nous. Tu regardes Dieu, tu dis, est-ce que lui il est digne que je lui donne mon temps? Vraiment? Est-ce qu'il est digne que j'arrête ceci pour lui? Vraiment? En tout cas, prends le temps de réfléchir. Comment toi tu penses, qu'est-ce que tu penses que Dieu doit avoir de toi? Qu'est-ce que tu penses que Dieu doit avoir de toi? Est-ce qu'il est digne de recevoir? Les regards disent, ah! Judas, maintenant lui, trouve une idée qui lui vient sur place. Il dit, ah! On aurait pu vendre ce parfum. Et puis il ajoute, hein, on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Il parle comme un démocrate. Non, c'est politique. Est-ce que vraiment Judas allait prendre l'argent donné aux... Non, il regarde, dit, mais on pouvait aider les gens, on peut faire ONG avec ça. Vous savez quoi? C'est bizarre, mais même les disciples pensaient à leur intérêt. Tout le monde pense à lui-même. Il regarde Jésus. Toi, tu ne vaux pas la peine qu'on dépense cet argent. On peut prendre l'argent, on multiplie, on fructifie. Et on fait l'argent avec. Hein? Peut-être pas nous, peut-être qu'on ne pense pas comme ça. Mais regardez les disciples qui suivent Jésus. Ils pensent qu'il ne vaut pas la peine. Demande pas à ton voisin. Est-ce que Dieu, là, il vaut la peine? Demande-lui. Est-ce qu'il vaut la peine de se réveiller tous les matins, venir prier dimanche? Est-ce qu'il vaut la peine d'être au téléphone à 5 heures du matin le chercher? Est-ce qu'il vaut la peine de venir le jeudi ici et commencer à le chercher? Est-ce qu'il vaut la peine de se plier en mille morceaux quand je suis fatigué? Est-ce qu'il vaut la peine? Est-ce qu'il vaut la peine d'arrêter de manger, jeûner et prier? Est-ce que ce Dieu-là vaut la peine? Est-ce qu'il faut faire toutes ces choses-là? Je dis remarquer Dieu, n'est-ce pas? Voilà ma réflexion et je veux terminer par ici. Voilà ma réflexion. Je pense que les disciples avaient d'autres valeurs et la femme avait aussi d'autres valeurs. Ils avaient chacun des valeurs différentes. Et Jésus explique toujours qu'il y a toujours deux valeurs qui se combattent en nous. Des valeurs. Jésus-Christ explique aux disciples, il dit, mais moi je vous dis, parce que vous entendez autre chose. Et puis il dit, moi je vous dis pour contredire ce que vous entendez. Il dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui la joue gauche. Il dit, vous entendez autre chose, moi maintenant je vous donne une autre valeur. Vous savez qu'une fois, je vous dis rapidement, il y a un monsieur qui m'a escroqué 3000 dollars. J'ai dit, 3000 dollars? Et puis il m'a escroqué. Il m'escroque 3000 dollars, il me donne l'adresse de sa maison. Je vais jusque chez lui, hein, avant de lui déposer le chèque. Le lendemain, je l'appelle pour conclure la chose. Il ne prend pas le téléphone. Je vais à la maison, là, ce n'est pas lui qui habitait là-bas. 3000 dollars. Vous savez quoi? 5-6 mois après, on m'appelle. On me dit, la police, non, un avocat m'appelle. Bonjour, monsieur, je suis l'avocat tel, je représente le monsieur tel. Le nom me remet dans mes émotions. Il me dit, je suis l'avocat de tel. Je dis, tu es son avocat. Il me dit, oui, je t'appelle parce que il a besoin de témoins qui doivent témoigner en sa faveur à la cour, pour dire que vraiment, il sert bien ses clients. Il a été arrêté, il est coffré. Et je vois les gens qui vont aller empoisonner la chose. Vous n'avez pas levé les mains? Non! Il me dit, maintenant, je cherche des témoins, tu es vraiment le nom qu'il a cité. Il a cité mon nom? Et le gars, il va aller forever. Je dis, tu veux que je vienne témoigner? Mais est-ce que tu veux qu'il reste là-bas à vie ou quoi? Non, parce que vraiment, je sentais les choses monter. Mais quand je pense à la loi la loi qui doit, la loi qui régit ma vie, elle est un peu contraire à ce que tu as envie vraiment de faire. Mais si tu veux honorer Dieu, ce n'est pas comment tu sens. Si tu dépends de comment tu sens, tu ne pourras jamais honorer Dieu. Non, ça ne peut pas être. En tout cas, oublie comment tu sens. Qu'est-ce que Dieu dit? Je regarde, je dis. Comme je n'ai rien à dire, je ne viens pas. Désolé, je ne pourrais pas le faire. Parce que si vous insistez, ça risque de vraiment. Ça risque de mal tourner. Non, je ne suis pas parti. Je ne sais pas si on l'a libéré ou quoi, mais en tout cas, Mais Dieu dit ceci, vous entendez des choses, c'est comme ça que vous entendez. Mais la valeur que moi je vous donne est celle-ci. Ne marchez pas comme ça, marchez de cette manière ici. Si quelqu'un veut plaider contre vous et prend ta tunique, laisse-lui et encore donne le manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Il revient encore, il explique. Mes lois sont différentes. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave. Et puis il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, non pour recevoir quelque chose, mais pour servir et donner sa vie. Donc mon principe, c'est que je donne tout ce que j'ai et je ne me sers pas. Il explique qu'il y a toujours deux lois. Maintenant la question est celle-ci. Quelle est la loi par laquelle tu marches? Tu peux être convaincu que Jésus est Jésus, mais tu peux ne pas être repenti. La repentance, c'est le changement des lois. Tu te dis à partir de maintenant, voilà la loi qui va me régir. Quelle est la loi qui te régit, même quand tu es chrétien? Les disciples étaient avec Jésus, mais avec d'autres lois dans leur tête. Au point où ils regardent Jésus, ils trouvent vraiment qu'il ne peut pas être un roi à qui on donne tout. Vous savez, je suis convaincu que les mêmes disciples là, s'ils doivent aller voir le vrai roi qu'eux considèrent comme roi, ils vont amener des biens pour dire tu es le roi. Mais pour eux, Jésus ne représentait rien. Quelle perte de donner toute ta jeunesse comme ça à un Jésus. Pourquoi? Ils étaient convertis, mais pas repentis. Mon point, c'est ceci. Tu peux être converti, tu peux être convaincu, mais est-ce que tu es repenti? La repentance, c'est quand il y a changement de mentalité. Qu'est-ce que repentance veut dire? Repentance, c'est le mot metanoeo, qui veut dire un changement radical de mentalité. Qui veut dire l'adoption d'un nouveau principe. C'est ça, métanoïa. J'adopte un nouveau principe par lequel je veux vivre maintenant. Tu vis par quel principe? Qu'est-ce qui gère ta vie? Est-ce que tu vis ta vie comme ce qu'on a écrit dans les magazines? Beaucoup d'entre nous, même comment nous habillons, tu peux voir que tu as regardé les magazines, les vidéoclips et tout ça. C'est-à-dire que tu es géré par d'autres lois. Quelle est la loi qui te gère? Tu es chrétien, mais quelle est la loi qui te gère? Si tu n'es pas repenti, Jésus sera toujours en deuxième place. Si tu n'es pas repenti. Ce n'est pas une question de venir à l'église, c'est une question d'être révolutionnaire dans ta mentalité. Il ne suffit pas de connaître seulement les œuvres que Dieu peut accomplir, mais il faut aller plus loin et connaître la voie de Dieu et faire sa volonté. C'est ça la repentance. Est-ce que tu es repenti? Est-ce que tu es repenti? Comme le jeune homme riche, vous connaissez l'histoire du jeune homme riche, il ne savait pas aller loin avec Dieu parce qu'il avait d'autres valeurs. Il vient et dit, moi je fais ceci, je fais cela, mais c'est religieux. Maintenant, quand Dieu dit « applique le principe, donne tout », il dit « ah, j'ai d'autres principes aussi ». Quelle est la loi qui te gère? La Bible dit ceci, « ne vous conformez pas au siècle présent », parce que le siècle présent a aussi des lois. Quelle est la loi qui te gère? Soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Soyez changés, radicalement changés. Le verset nous montre qu'il y a un système de pensée qu'on appelle siècle présent. Siècle présent. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, si Dieu ne fait pas grâce, nous marchons selon le siècle présent. Mais nous sommes à l'église, nous chantons, mais nos valeurs sont les valeurs du siècle présent. Est-ce que vous me suivez? Quelles sont les valeurs qui te gèrent toi? Je sais que tu es à l'église, mais malgré le fait que tu es ici, quelle est la valeur qui te gère toi? Qu'est-ce qui te gère? Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Qu'est-ce qui est important? Vous savez que pour un bébé ou bien une jeune fille qui fait les poupées en papier ou bien je ne sais pas quoi, cette poupée-là est précieuse. C'est comme s'il n'y a rien d'autre. Mais dès que tu grandis, tu atteins la maturité, d'autres choses deviennent prennent plus de valeur. Mon point, c'est que tu es chrétien, mais quelles sont tes valeurs? Tu marches par quelles valeurs? Les valeurs de ce monde vient de Satan qui a commencé à instiguer, à parler à Ève et Adam, dit « prenez ». Donc, les valeurs du monde sont telles que, sont citées comme ceci. Les valeurs du monde, c'est prendre pour avoir la gloire, la sécurité et les possessions. Les valeurs du monde. Prends pour avoir la gloire, la sécurité et les possessions. Ou bien prends, garde et tu auras et tu seras. Satan dit à Jésus, voilà, tu auras la gloire. Il dit à Ève, prends et tu auras. La valeur de Dieu, c'est donne, quitte et tu seras. Donne, quitte et tu seras. La valeur, les valeurs de Satan, du monde, c'est prends, tu auras. Prends et tu auras. Dieu dit, donne et tu auras. Et les deux sont contradictoires. Autrement dit, quand tu veux servir Dieu selon ses valeurs, tu seras en train de donner. Tout le temps donner. Et ne jamais te fatiguer de donner. Bien aimé, je dis ne jamais te fatiguer de donner. Le diable utilise même des gens pour t'empêcher d'arrêter de donner. Ils vont t'énerver, ils vont te piller, ils vont te trahir. Ils vont trahir l'amitié. Mais Dieu dit keep giving. Dès que quelqu'un continue à donner. Dieu dit à la veuve, bien aimée, Dieu dit à la veuve de Sarepta. Dieu dit à la veuve de Sarepta. Il dit, la veuve vient, elle dit, moi je n'ai que ça, c'est fini, c'est tout ce que j'ai à la maison. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne peux pas partager ça avec toi, le prophète. Le prophète dit, tu sais quoi? Tu veux être béni. Donne ce que tu as à la maison. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a un couple qui vient me voir au bureau, mais alors, je vous assure, quand ils ont commencé à expliquer leurs problèmes, je me suis dit, en tout cas, même le peu que nous avons, nous allons les aider. Ils ont étalé des problèmes sérieux financiers. La maison partait, tout partait, il n'y avait pas de boulot. Pendant que j'écoutais, je suis en train de réfléchir, tu as les larmes, hein, mais je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Mais c'était mes moyens limités. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pendant que je réfléchis, Dieu me dit, voilà comment tu vas les aider. Tu vas leur demander d'investir 2000 dollars pour, je ne sais plus, c'était quelque chose qui a à voir avec l'église. Ah. Maintenant, eux, ils sont en train de pleurer. Moi, dans la tête, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je dois leur dire ça? Je dis, Seigneur, pourquoi tu me cherches tes problèmes? Ces couples ici ont besoin d'aide. Il me dit, c'est l'aide que je veux leur donner. Il faut qu'ils créent l'espace pour moi. Tu leur dis de donner ça. Je prends mon courage en main. Je dis, bien-aimé, on va vous aider. Il y a le projet ici de l'église, c'est 2000 dollars. Donnez ça et vous serez... Mais vous savez quoi? Les deux se regardent. La femme regarde l'homme, l'homme regarde la femme. Font un sourire. Je dis, ouh. Oui, là je sens que bon, apparemment la chose est passée. Pourquoi le sourire? Une année avant, la femme a fait un rêve que moi, je leur demanderai de l'argent pour faire quelque chose à l'église. Mais le mari dit à la femme, si le pasteur ne demande pas, ne lui dis pas. Que lui-même vienne demander. Si c'est Dieu, il demandera. Je dis, oui. Maintenant, en fait, le même mois, le même jour où ils ont parlé de ça, c'était une année après, le même jour où ils venaient maintenant me demander l'argent. Quand ils viennent maintenant, en route, ils se disaient, ah, tu te rappelles du rêve qu'on avait demandé, le pasteur a demandé de l'argent, tout ça là. Le mari dit, tu sais ce que je t'avais dit, ne le dis même pas ces choses. Lui-même, si Dieu lui parle, ça va. Ils arrivent dans mon bureau, ils commencent à parler. Dès que j'ai dit donner l'argent, ils se regardent parce qu'ils se disent, le jour est arrivé. Il me donne, le monsieur dit, ah, on n'a pas d'argent. Toi-même, tu connais l'histoire. Je dis, en tout cas, bon, voilà. Il me dit, non, attends. Il appelle quelqu'un de ses amis, mais il lui donne des petits contrats rapidement. Le gars travaille 2 semaines, full, il récolte l'argent. Il vient, j'étais même pas à la maison. Il est venu, dit, ça, il faut donner au pasteur. Je ne veux même pas y toucher parce que je sens déjà que la tentation vient. Gardez ça. Il part, il laisse l'argent. Je viens, je trouve l'argent. On en fait ce qu'on devait faire. Vous savez quoi? Quelques 3-4 mois après, il revenait plus pour me dire qu'il y avait des problèmes ou quoi, mais je ne savais même plus ce qui s'est passé. Je vois la soeur, je dis, oh, mais vous êtes venu plusieurs fois, vous ne m'avez pas dit, c'est quoi la suite? Il dit, pardon, pasteur, pardon, c'est notre faute. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, en fait, voilà ce qui est arrivé. Dès qu'on a donné l'argent, on nous a appelés du pays pour nous dire que depuis que le papa de la fille était mort, Il y a, le papa avait des biens, mais vous connaissez comment les choses dans certains de nos pays se passent. Quand le papa meurt, tous les ayants droit prennent tous les biens. Donc, ils ont pris, il y avait des écoles, tout ça. Ils ont pris tous les biens, ils ont chassé la maman avec les enfants. Et donc, ils ont commencé à bouffer les biens, ils ont vendu les écoles, ils ont tout vendu, donc bouffé tout. 8 ans après, est-ce que vous dites 8 ans? 8 ans après, ils appellent maintenant la fille maintenant. Il dit, en tout cas, pardonnez-nous. Vous êtes nos enfants, le sang de notre frère. Nous sommes désolés. On n'aurait pas dû prendre ces biens, mais nous les avons pris. Alors, ce qu'on a fait, nous sommes allés tout récupérer pour vous les remettre. Voici l'argent, voilà ta part, voici votre argent. 8 ans après, elle n'avait plus de mots. Mais elle dit, elle a payé toutes ses factures. Et puis, quand elle parlait, tu voyais le visage dégagé. Hé, pasteur, vraiment, pardon, c'est vraiment tout va bien maintenant. On a payé les factures, tout va bien, alléluia. Si mes frères me disent, non, continue à prier, si me dire. Et puis, le 10% est parti où? mais, suivez-moi, c'est quoi mon point? Vous savez, Dieu, s'il te demande quelque chose, ça veut dire qu'il est prêt à se révéler dans ta vie. Aussi longtemps que tu gardes, il n'y aura pas de progrès. Le progrès avec Dieu, c'est quand tu apprends à donner, même le rien que tu as. La femme là est entrée, elle n'avait rien. Il ne faut pas justifier. La femme n'avait rien. Elle avait les cheveux. Elle avait les lèvres pour faire un bisou. Et elle avait les larmes. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est de dire? Si Dieu te réclame quelque chose, c'est qu'il est prêt à tourner la page de ta vie pour commencer une nouvelle histoire. Bam! Mais pour qu'il commence une nouvelle histoire, il doit te débarrasser. Je sens, donc, quand je me préparais, Dieu me dit, parle, parce que je sens dans mon esprit qu'il y a des gens que Dieu veut débarrasser de la vieille histoire pour leur donner une nouvelle histoire. La Bible dit que Ruth était toujours habillée en deuil. Mais quand elle devait aller voir Boaz, la Bible dit, elle mit ses meilleurs habits. Ça veut dire qu'elle avait les meilleurs habits, mais elle ne l'a jamais utilisé à cause de la condition dans laquelle elle marchait. Bien-aimé, il est temps que tu prennes certains habits, que tu mettes de côté et prends ce que Dieu a pour toi pour la saison que Dieu a pour toi. Mais avant de le faire, tu dois te débarrasser de certaines choses. Tu dois décider de dire non. Et bien-aimé, ça ne sera pas facile de dire non. Mais tu ne peux pas recevoir plus grand si tu tiens à ce que tu as. Je vous exhorte, je voudrais par la grâce vous provoquer à dire, Seigneur, voilà ce que tu dois faire. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison que je peux te donner pour que je passe à autre chose? C'est radical, mais c'est seulement radical quand tu continues à marcher selon les lois du monde. Si tu refuses ces lois-là, servir Dieu ne sera plus un problème. Parce que servir Dieu, c'est le promouvoir et donner la première place. Mais quand tu n'as pas la première place, tu seras comme les disciples, en train de dire, est-ce que ça vaut la peine? Pour les disciples, c'était difficile. Pour la femme, on n'a même pas exhorté. Vous imaginez, on n'a pas exhorté la femme, elle a donné. Les disciples, eux, ils trouvent que c'est trop nous demander. La prière que tu dois faire, c'est dire à Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Est-ce que vous m'avez compris? Tu entres dans la maison et tu dis, Seigneur, peut-être que moi, je vois que je n'ai rien. Toi, tu vois quelque chose qui peut me sortir d'ici. La femme, la veuve dit au prophète, je n'ai rien, je n'ai que le, ça. C'est quoi? Le prophète dit, ah, mais c'est tout. Donne-moi ça et voyons ce que Dieu va faire. Quand Dieu veut te promouvoir, il demandera quelque chose. Et toi, ne propose pas à Dieu quelque chose. Dis-lui, qu'est-ce que tu veux? Parce que si tu proposes, tu risques de diminuer la chose. Laisse que Dieu dise, donne-moi ça. Dieu sait ce qui te bloque. Des fois, on garde des choses pensant que c'est ce qui fait notre promotion. Non, c'est ce qui te bloque, c'est la chose que tu gardes là. La femme disait, ce que j'ai ici, c'est ça, je vivrai par ça. Dieu dit, non, ce n'est pas par ça que tu vas vivre. Écoutez son projet. J'utilise ça, je meurs. Dieu dit, non, non. Tu me donnes, tu vis. Le projet du diable, c'est garde et meurs. Le projet de Dieu, c'est donne et vie. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a la loi du péché et de la mort. Cette loi-là va à l'encontre de la loi de l'esprit et de vie. Il y a une loi qui essaie de te garder. Il y a une autre loi qui veut te promouvoir. Mais la loi de vie, elle commence par « donne ». Tu vas seulement dire à Dieu, « Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison ? Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» Bien-aimé, c'est la prière, l'une des prières les plus puissantes que tu, n'auras jamais faites. De dire à Dieu sincèrement, qu'est-ce que tu veux? What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Si tu sens que tu es arrivé au bout du fil, fais la prière. Si tu sens qu'autour de toi, c'est comme s'il n'y a plus rien de nouveau, fais cette prière ici. Si tu es fatigué de la routine, dis à Dieu, maintenant tu veux quoi? Maintenant tu veux quoi? Et je sens dans mon esprit des gens vraiment qui se disent, j'en ai marre, je suis sûr qu'il y a autre chose. Fais cette prière sincère, dis Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu veux de moi? Lèvons-nous, s'il vous plaît. Lèvons-nous, nous allons dire.